Quand Eric Clapton produit du Clapton, ça donne ceci, Judgment Day, un très bon blues un peu rythmé, souligné par de sympathiques chœurs masculins. Eric Clapton est né le 30 mars 1945 à Ripley, Surrey, dans la région londonienne. Et c'est bien sûr parce que nous approchons de ce 30 mars que je romps une lance en faveur de ce magnifique guitariste qui a une réputation qui a largement dépassé les frontières de son pays, l'Angleterre, et qui fait que Clapton aujourd'hui est une référence absolue. Eric Clapton est le fils illégitime d'une mère de 16 ans et d'un officier canadien. Il fut élevé par ses grands-parents maternels qui lui offrirent une guitare Hofner pour ses 14 ans. Après l'écoute intensive de bluesmen comme Big Bill Brunsey ou Robert Johnson, son maître, il joue avec les Roosters en 1963 et rejoint les Yardbirds où il imprime sa marque. On le surnomme « slow hand », main lente, due à la manière de toucher tout particulièrement les cordes de sa guitare. Alors le 7 et le 8 décembre 63 ont lieu ses premiers enregistrements avec Sonny Boy Williamson, avant le « Hit for You Love » et sa démission du groupe par ailleurs. Remplacé par Jeff Beck au début des années 64-65, voilà qu'il est surnommé soudain Goth, Dieu, et il est embauché par les Blues Breakers de John Mayall, maître étalon du British Blues Boom. Alors, l'album Blues Breakers avec Eric Clapton a un retentissement inouï dès sa sortie en juillet 66 et on place ainsi le guitariste parmi les meilleurs instrumentistes de sa génération. Le 11 juin, il fonde le Power Trio Cream avec Jack Bruce et Ginger Baker, super groupe de blues rock teinté de psychédélisme. Et puis, le groupe se sépare avec, bien entendu, beaucoup de larmoiements, de déchirements aussi, mais Clapton a d'autres ressources. Et s'il participe au enregistrements d'Aretha Franklin, de George Harrison, de Jackie Lomax et le solo de While My Guitar Gently Weeps des Beatles. En décembre 68, il est du rock'n'roll circus des Rolling Stones et quelques jam sessions plus tard, le trio Blind Fate voit le jour avec Steve Winwood et Ginger Baker donnant lieu à l'album éponyme. Alors, début des années 70, il participe au All Things Must Pass de George Harrison, puis forme Derek and the Dominos avec ses musiciens américains Carl Riddle, Jim Gordon et Bobby Whitlock. Alors, comme vous le voyez, on n'en est qu'au tout début de cette prodigieuse carrière. Et tout le monde a en tête ce fameux point d'orgue de ses concerts à l'époque, Layla, une célèbre chanson qu'il a élaborée avec l'apport du guitariste Duane Altman et un double album consécutif en juin 1971 viendra couronner le tout. Il est cependant déprimé par l'échec commercial du disque que l'on ne juge pas à sa juste valeur au tout début et Clapton très meurtri s'adonne alors à l'héroïne et vit en reclus loin des studios. Il retrouve ses complices pour une réunion avortée, il participe au concert Force Bangladesh de son ami Harrison au Madison Square Garden de New York. Très tôt, en effet, Clapton a une sensibilité qui l'amène à s'engager pour des nobles causes. Son ami Pete Townshend l'extirpe de sa solitude et de sa dépendance à la drogue par un concert au Rainbow Théâtre de Londres en 1973. Les années 70 sont très fastes, les années 80 également, mais Clapton retombera dans ses maux et l'abus d'alcool va détériorer sa santé d'une manière très vive. Des ulcères, une pleurésie l'oblige à suivre une cure de désintoxication en 1982, mais il est vaillant, volontaire, il revient en studio à l'automne pour enregistrer le bel album Money and Cigarettes. Et puis, au cours des années 70, Clapton continue son ascension. Il établit un record en donnant 10 concerts au Royal Albert Hall en quatuor avec un orchestre de 13 musiciens et le National Philharmonic Orchestra. Ce ne sont là que quelques-unes des pépites d'une vie extrêmement dense et bien rythmée par des concerts, par des sorties de disques, jusqu'au moment où on est au début des années 2000, revient comme un leitmotiv dans la pensée d'Eric Clapton, le souhait de revenir aux sources. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, il va décider de rendre hommage pour de bon à son maître du Delta Blues, Robert Johnson, le musicien qui a déclenché sa passion pour le blues et la guitare. Et puis 2005-2006, collaboration avec Gigi Kale pour ce Road to Escondido, le 18e album. Et puis arrive le moment où en 2010, il prépare cet album intitulé très sobrement Clapton. Eric Clapton revient donc à ses sources. Aussi, sur cet album, on retrouve le très beau morceau « Autumn Leaves », traduisez les feuilles mortes, qui clôture un album remarquable. Eric Clapton varie dans cet album, Clapton tout simplement, entre blues langoureux et retour au rock blues énergique. Invité de marque du dit Clapton, le trompettiste Wynton Marsalis rend la politesse en son Lincoln Jazz Center qui accueille le duo pour un concert mémorable. Sorti donc en septembre 2011, cet album Clapton est peut-être passé un peu inaperçu, quoique, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité l'extirper de cet anonymat en vous présentant le 2e extrait de cette séquence, When Somebody Think, formidable morceau de jazz New Orleans, cool, avec le prodigieux Alain Toussaint, pianiste de la Nouvelle-Orléans. Écoutez, cette musique-là, c'est une merveille.